me restreindre à me dire, ah, j'ai pas le droit que mon cœur dépasse 120 BPM sur ma séance parce que je dois faire de la zone 2, parce que Sean a dit qu'il fallait faire de la zone 2, c'est contre-productif. Au niveau nerveux, on va avoir une activation assez intéressante de la branche parasympathique du système nerveux autonome, donc qui vient contrebalancer le système nerveux orthosympathique, et il faut que les deux soient fonctionnels. On peut penser au niveau cardiaque, hypertrophie du ventricule gauche, un cœur qui devient plus grand, plus efficient, qui bat mieux en fait, qui bat plus de sang à chaque battement. On peut parler de vasodilatation métabolique, comme si tes artères, ton système vasculaire passait d'une autoroute à deux voies à une autoroute à quatre voies. Personnes qui ont un grand développement de l'endurance, notamment via cette basse intensité, vont avoir une capacité à répondre aux besoins d'oxygène et aux besoins sanguins plus importants.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10, lien et code en description. Retour au podcast.
Et bienvenue sur un nouvel épisode de 1000%. On est très heureux de recevoir Sean Seale de Upside Strength. Salut Sean.
Ça va, Vince?
Bah ouais, ça va, on s'est régalé. J'espère qu'on a fait un épisode sur la VO2 Max. On avait déjà tourné un épisode sur l'entraînement d'endurance, un autre épisode sur le fractionné. Déjà là, ça vous fait bon, vous avez 3 heures pour déjà mieux comprendre votre entraînement d'endurance. C'est vraiment génial. Aujourd'hui, capsule zone 2 basse intensité. Dis-nous tout Sean.
Donc cette fameuse zone 2 qui est dans l'air du temps, qui a, semblerait-il, gagné en popularité ces dernières années. Je pense qu'il y a un effet de mode. Je pense aussi qu'il y avait une nécessité, en fait, parce qu'à mon avis, la bascule des modes, c'est pas pour rien que ça se passe. Que quand tu as toute une décennie ou des dizaines d'années d'entraînement où les gens font beaucoup de haute intensité, au détriment peut-être d'entraînements qui sont plus faciles à encaisser et qui servent aussi de base, on en a parlé dans le podcast VO2 Max, qui servent de base pour mieux encaisser les grosses séances de VO2, et ben quand il t'en manque, forcément, tu vas chercher la petite bête, tu vas chercher ce qui te fait défaut. Et typiquement, ce qui te fait défaut, c'est le truc que tu n'as pas fait depuis très longtemps. Et donc, si tu n'as pas fait de basse intensité depuis très longtemps, ben c'est ça qui va t'aider le plus parce que c'est ça qui te manque. Et en plus de ça, tu vas avoir l'effet des progrès de débutant parce que c'est nouveau pour toi, c'est nouveau pour ton corps, c'est une nouvelle adaptation, un nouveau stimulus. Et qui dit nouveau stimulus dit adaptation disproportionnée. Donc, grosse augmentation des capacités en très peu de temps. Même si on sait que la zone 2, ça prend du temps, c'est pas instantané, c'est pas en 2 semaines que tu fais la différence. Mais on va quand même voir des progrès très, très intéressants en quelques semaines, voire quelques mois, de telle manière à ce que ça va vraiment changer ta capacité à t'entraîner, ta capacité à récupérer, ta capacité à encaisser du volume, de l'intensité, etc. Donc, pour moi, c'est ça la zone 2. La zone 2 qui est un terme, je pense, un petit peu trompeur parce que souvent, quand on parle de zone 2, ce qu'on veut dire, c'est entraînement à basse intensité. Entraînement à basse intensité qui peut se mesurer physiologiquement. Hein, on peut faire la différence entre la basse, la haute, la très haute, la basse, la moyenne, la haute et la très haute intensité. Il y a 4 niveaux d'intensité, un petit peu comme les 4 états de la matière. L'eau, on peut la retrouver au niveau solide, liquide, gazeuse et le plasma qui arrive aux alentours des 16 000 degrés lorsque les électrons se détachent des noyaux.
C'est quantique là, c'est pas possible.
C'est, C'est de la physique de base, Vincent. Mais en gros, voilà, ton corps, il change d'état interne selon l'intensité à laquelle tu t'exprimes. Et en fait, la zone 2, souvent, ce qu'on veut dire, c'est basse intensité, entraînement qui est vraiment facile, dominante parasympathique, très peu de charge au niveau de la fatigue engendrée. Et je pense que c'est ces caractéristiques-là, au final, qui sont importantes pour ce genre de séance.
L'erreur la plus courante, hein, c'est des gens qui pensent être à basse intensité sans l'être. Et c'est des gens qui ont du mal à comprendre que cette zone 2, c'est la base, c'est le socle de notre capacité d'endurance et qui prend du temps. Pourquoi ça prend du temps ? Voilà, revenons un petit peu sur cette notion de temps.
Ça dépend du niveau auquel tu te trouves. Ce que je veux dire par là, et ça c'est clairement, disons, quelque chose sur lequel j'ai changé de bord récemment. Personnellement, je ne conseillerais pas à un débutant de faire de la zone 2.
J'adore, let's go. Non, mais après on a le droit de changer en vrai.
Il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis, c'est pas ça qu'on dit ?
Mais ouais, on est là pour évoluer, il faut du changement.
Forcément, je vais argumenter, je vais raisonner. On le sait, la haute intensité, ça marche vachement bien, surtout quand c'est nouveau. Et mais très souvent, même un débutant, il aura de la peine à se mettre en zone 2. Moi, je ne peux pas courir en zone 2. Je fais 90 kilos, ça fait 8 ans que je n'ai pas couru, j'ai beau être en forme physiquement. Si je cours, mon cœur, il monte rapidement, ça va vite vers du RPE 4, 5, voire 6 si ça dure trop longtemps. Je ne peux pas mécaniquement courir en zone 2. Donc, me restreindre à me dire « Ah, j'ai pas le droit que mon cœur dépasse 120 BPM sur ma séance parce que je dois faire de la zone 2, parce que Sean il a dit qu'il fallait faire de la zone 2 », c'est contre-productif. Par contre, sur la course à pied, je vais gérer ma fraction de travail, ma fraction de repos et forcément la vitesse de course pour que mon entraînement il soit durable et que je puisse le répéter 2-3 fois dans la semaine pour continuer à progresser pour un jour arriver à nouveau à pouvoir faire un footing avec un cœur qui reste stable pendant 45 minutes, 1 heure. Et là, je pourrais faire de la zone 2. Mais à mon avis, outre le fait de bien gérer cette charge mécanique en course à pied et donc de réfléchir à comment tu t'entraînes quand tu débutes sur cette activité, un débutant aura tout intérêt à aller faire des séances de tempo, des séances de seuil, des séances de VO2 en vélo, par exemple, pour développer son cardio au départ. Parce que qui dit progrès de débutant dit progrès rapide. Qui dit progrès rapide dit meilleure adhérence à l'entraînement, motivation, etc. Et donc ça, c'est des choses qui vont potentiellement donner de meilleurs résultats plus rapidement. Après, la grosse difficulté, c'est quand tu dois faire la transition entre « je m'entraîne dur et ça fonctionne », « je m'entraîne dur encore plus souvent et ça fonctionne », « je m'entraîne très dur très souvent et ça continue à peu près de fonctionner », jusqu'au jour où tu arrives à « je m'entraîne encore plus dur qu'avant, mais maintenant ça ne fonctionne plus ».
Et maintenant, je fais de la zone 2 du coup.
Et là, c'est le bon moment pour commencer à parler de zone 2 et à venir rééquilibrer la charge, le type d'entraînement qu'on va faire pour continuer à progresser.
Ok, donc pour le débutant, tu vas le chercher dans des intensités qui pour toi, c'est un catalyseur d'adaptation. Et une fois qu'il a créé cette capacité cardiovasculaire, tu vas réintégrer la basse intensité parce qu'il a du mal, sans cette capacité de base, à faire de la zone 2, en fait.
C'est un petit peu l'analogie des vitesses que tu passes quand tu es en voiture. Et l'intensité, c'est un petit peu comme les RPM, comme les tours par minute. Donc, tu sais, tu as l'aiguille qui monte. Tu passes la vitesse, ça redescend. Et en fait, au début, tu es en première parce que tu commences à l'arrêt. Tu t'es pas entraîné, ça fait longtemps que tu t'entraînes pas, tu es sédentaire, tu reprends l'entraînement.
Là, t'es...
Et en fait, tu es au rupteur en première. À un moment donné, tu dois passer la deuxième.
Mais bon, embouteillage quand même.
Mais à part ça, il y a des mecs sur YouTube qui font des sons de voiture avec leur bouche, c'est un truc de frappadingue. Hein.
Ouais. Si...
À tel point que des spécialistes peuvent reconnaître quel type de voiture c'est. Non, mais c'est assez dingue.
Faut qu'on se fasse un hors-série, un truc comme ça.
J'adorerais faire un hors-série. Je parle que
d'endurance. En commentaire, si vous voulez un hors-série.
Je parle voilà, que d'endurance à longueur de journée, les gars, on peut parler d'autre chose. Donc non, ce que je disais, c'est que pour un débutant qui a envie de faire cet entraînement, et à mon avis, c'est là où il y a la distinction, pour quelqu'un qui est volontaire, qui est vaillant, comme on dit, et qui est prêt à s'envoyer et à se faire un petit peu de mal à l'entraînement, commence par des trucs qui vont tout de suite te donner des bons résultats et qui vont te faire progresser rapidement. Forcément, si je prends quelqu'un en coaching qui a peur de s'entraîner, qui a peur de l'intensité, qui est vraiment qui a une aversion à se mettre dans le dur, qui a jamais vraiment fait ça dans sa vie, qui sait pas vraiment ce que c'est de se mettre dans le rouge, ben peut-être que je vais commencer avec du facile et puis je vais progresser petit à petit. Mais ça va être dans une démarche de progressivité par rapport à la prédisposition psychologique de la personne que j'ai devant moi. Mais si j'ai un gros bourrin qui a juste envie de se la mettre, eh ben, tu sais quoi, tant qu'on peut le faire de manière sûre et que je sais que tu vas pouvoir en récupérer et que pour l'instant, tu ne te crames pas parce que tu n'en fais pas trop tout le temps, eh ben, go, on s'envoie. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le CrossFit est si percutant et si effectif pour les débutants. Parce que on a vraiment des adaptations qui vont être considérables. En plus, on a un stimulus qui est mixte, on fait de la force, on fait de l'endurance, on apprend des skills. C'est vachement riche comme monde au final. Donc, si tu as envie de te mettre en travers, fais-le, mais sois bien conscient du fait que le jour où ça ne marche plus de juste te mettre en travers, eh ben, c'est là que le sujet de la zone 2 devient intéressant.
Bon, Sean, moi aussi, je change de bord. Je suis convaincu, voilà, j'aime bien. Mon petit bémol, c'est si on vient sur la modalité de la course à pied, moi j'aime bien la basse intensité parce que même s'il est en, il est au rupteur, il est en, il est quand même à basse intensité, il crée de la capacité d'absorption du rebond au niveau neuromusculaire, biomécanique de course. Donc on ferait un petit bémol pour la course à pied où on n'aurait peut-être pas la même approche. Où la basse intensité, pour moi, a un sens pour créer cette capacité d'absorption de choc. Quoi.
Alors, et tu vois, je pense qu'on peut en parler comme ça, mais à mon avis, on peut même le distinguer de la manière suivante. Si on ne parle pas de la charge mécanique structurelle de la course à pied, okay, donc si on fait abstraction de ce paramètre-là, on parle de l'entraînement en endurance en général. À mon avis, plus ton niveau augmente, plus ton volume horaire augmente, et plus grande sera la proportion de travail à basse intensité. Et donc, la zone 2 vient prendre une place prépondérante dans ton régime d'entraînement de manière générale. Ça, ça va être, à mon avis, une bonne règle de base en endurance.
Rappelle-le, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, en gros, tu as un moteur qui est tellement gros, il te faut une grosse capacité en dessous, un gros châssis pour pouvoir tolérer ou exprimer vraiment la puissance de ce moteur. Okay. Et que tu peux te faire tellement mal en fait, sur des séances de bourrin que tu ne peux simplement pas en faire autant qu'au début. Et donc, il faut un meilleur équilibre entre des séances de base qui créent la fondation et des séances de qualité qui viennent vraiment pousser les limites, si on veut. Donc, il y a ce côté-là, si on fait abstraction de l'aspect structurel. Et si on revient sur la course à pied, à mon avis, on n'a même pas besoin de parler de zone 2, en fait. On a besoin de parler d'une progressivité de la charge structurelle en course à pied. Pour moi, il est là le vrai combat. Ce n'est pas une histoire de zone. Parce que comme je t'ai dit avant, mon fractionné footing, ce n'est même pas de la zone 2. Je te monte ma courbe cardiaque, je te donne mes RPE, tu m'entends respirer après une minute de footing, ce n'est pas de la zone 2.
Mais sur le référentiel course à pied, c'est de la basse intensité.
Sur le référentiel course à pied, c'est la séance que moi, j'ai besoin de faire pour ne pas me péter les tibias, pour ne pas me faire une périostite dans 2 semaines. Et pour m'entraîner 2 à 3 fois semaine afin de pouvoir tolérer plus de charges, afin de pouvoir tolérer plus de rebonds, afin de développer mon pied. Et oui, afin de développer la base structurelle pour assumer des vitesses de course plus élevées et des volumes de course plus importants. Donc clairement, quand on parle de course à pied, on a ce paramètre structurel à prendre en compte et qui est assez différent au final de ce que j'ai dit avant. Tu vois ? Mais oui, quand tu parles course à pied, il faut se dire que si je veux pouvoir courir très vite sur du fractionné, idéalement, il faut d'abord que je puisse courir bien moins vite sur des temps bien plus élevés parce que sinon, je n'ai pas le pied, je n'ai pas les muscles de la cheville, du bas de la jambe, tibia, mollet, qui vont me permettre au final de bien assumer cet entraînement à haute vitesse, à haute intensité. Hein, c'est vraiment une histoire, à mon avis, de rebond. C'est c'est de la pliométrie extensive, la course à pied, il faut se le dire. Et pour ça, il faut un ressort. Parce que si tu n'as pas de ressort, ça tape dans les genoux, dans les hanches, dans le dos. Et ceux qui le ressentent, ils savent de quoi je parle. Si tu as mal au dos à chaque fois que tu cours, il y a de grandes chances que tu n'aies pas de pied. Alors, il y a peut-être d'autres problèmes. Mais typiquement, si tu n'as pas de pied, tu ne peux pas rebondir. Tu t'écrases et il y a un truc dans le système qui va prendre cette charge-là.
Tu vois, moi, en dessous du genou, pour moi, c'est un élastique.
C'est ça.
Donc c'est la même chose, mollet, tendon d'Achille, pied, j'adore. Au-dessus du genou, c'est le moteur, en dessous, c'est de la force élastique du ressort. On a reçu Blaise Dubois, on a reçu Jean-Benoît Morin sur le renforcement au trail. Je sais pas si tu as écouté ces épisodes, mais waouh, ça survole leur domaine, tu vois. Il y a des experts, il y a des gens qui survolent.
Et ça, c'est quelque chose qui est complètement négligé, à mon avis, dans la préparation de course à pied pour beaucoup de monde. C'est ce pied, en fait. Est-ce que tu travailles ton pied? Est-ce que tu fais tes petites marches en pointe, tes marches talons? Est-ce que tu fais ton développement du tibia à l'intérieur? Est-ce que tu fais ton wall sit soleus? Est-ce que tu fais tes gammes? Est-ce que tu fais tes pogo, tes hop, etc.? C'est toute cette école de course, toutes ces fondations que personne n'a envie de faire. Qui font chier parce que c'est pas cool à faire sur Instagram, mais qui au final font que tu as du pied, font que tu peux rebondir, font que tu es élastique et font que tu peux courir véritablement plutôt que t'écraser.
Ouais, donc sur AMI%, on court tous. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on essaye de revenir un petit peu sur cette course à pied qui touche aussi beaucoup de personnes. Donc pour un débutant, par exemple, la zone 2, tu la mettrais sur une autre modalité, rameur, crossfit, la zone 2, ce serait plus une basse intensité à la course à pied pour créer la capacité neuromusculaire d'absorption de choc et de pied. Mais par contre, tu irais travailler des hautes intensités sur d'autres modalités, au vélo, au ski erg.
On peut faire ça et on peut aussi faire, par exemple, je peux faire de la zone 2 et de la haute intensité sur le vélo. Et je peux utiliser des séances adaptées en course à pied pour progresser cette charge structurelle. Et encore une fois, je ne sais même pas si on a besoin de mettre un numéro de zone sur ce que, par exemple, ce que je reviens à ce que j'ai fait, parce que je te dis, je sors de la séance juste avant notre épisode. J'ai fait 3 blocs de 5 fois 1 minute on, 1 minute de marche. Donc, j'ai fait 15 minutes de course au total. RPE, 2 au début, plutôt 5 à la fin des 5 répétitions. Après, ça redescend un petit peu et puis après, ça remonte. Fréquence cardiaque, je crois que j'ai regardé, j'étais au max, j'étais à 146, je crois. Et clairement, métaboliquement parlant, ce n'était pas de la zone 2. Si tu prends mon lactate après 2-3 intervalles, je ne suis pas en zone 2. Mais ça reste l'entraînement qu'il me faut actuellement pour pouvoir continuer à progresser de manière sereine, sûre, durable, sans blesser. Et donc, est-ce qu'on a besoin de mettre une zone là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment une zone? Parce qu'en termes de vitesse, je suis lent à mourir, mais au niveau métabolique, je ne suis pas en zone 2. Je suis bien plus haut que ça.
Et aussi, on a vu sur l'autre épisode de la VO2 Max que ce n'était pas juste de la ventilation, pas juste du débit cardiaque, mais il y avait l'impact du système musculaire qui, pour le coup, tes jambes, elles n'ont pas l'habitude de prendre autant d'énergie élastique. Tu es en position debout, enfin, tu vois, et c'est sûrement ça qui fait que ça te fait exploser ta fréquence cardiaque et ton RPE.
Ouais, c'est ça. Et je ne suis pas capable aujourd'hui de courir en zone 2. Donc, est-ce qu'on doit catégoriser ça comme de la zone 2 parce que ça court lentement, ou est-ce que c'est simplement un entraînement adapté en course à pied?
Bon, Sean, voilà, la capsule, c'est sur la zone 2. Donc,
ouais, mais moi, j'aime plus la zone 2. Non, mais...
oui, mais tu reviendras dans 10 ans, il y aura un effet de rebond de mode. Donc, tu seras obligé de reparler cette zone 2. Basse intensité, en vrai, pourquoi ça a eu une fame là? Pourquoi tout le monde a fait de la basse intensité? C'est qu'il y a,
parce que, tout le monde s'est mis en équerre pendant des années sur de la haute intensité. Il y a eu la vague du crossfit, il y a eu le fractionné, il y a eu tout ça, il y a eu les études VO2. Et derrière, on s'est rendu compte qu'on était sur les rotules, qu'on n'arrivait plus à récupérer, qu'on n'encaissait plus le volume et l'intensité. Et puis qu'il fallait commencer à penser autrement. Et puis, zone 2 est devenue pertinente à ce moment-là.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Et sur quel bénéfice, quels sont les bienfaits de cette basse intensité, cette zone 2? On peut le voir de différentes manières, mais au niveau cardiaque, au niveau mitochondrie, métabolisme, nerveux, il y a plein de façons de le voir.
Au niveau nerveux, on va avoir une activation assez intéressante de la branche parasympathique du système nerveux autonome, donc qui vient contrebalancer le système nerveux orthosympathique. J'aime bien l'analogie d'Anna El-Obri qui parle de l'accélérateur, c'est l'orthosympathique, et le frein à main, c'est le parasympathique. Et il faut que les deux soient fonctionnels. Tu peux pas juste avoir une pédale d'accélérateur sans avoir de frein, et tu peux pas juste avoir un frein sans accélérateur. Il faut les deux si tu veux aller quelque part en voiture. Et donc, si tu es tout le temps sur l'accélérateur, ben à un moment donné, il faut savoir utiliser le frein ou le frein à main. Donc, cette branche parasympathique devient intéressante. Tu as parlé des autres adaptations. On peut penser au niveau cardiaque, hypertrophie du ventricule gauche, un cœur qui devient plus grand, plus efficient, qui bat mieux en fait, qui bat plus de sang à chaque battement. On peut parler de vasodilatation métabolique, en gros une meilleure réponse aux besoins en oxygène et en besoins au flux sanguin, comme si tes artères, ton système vasculaire passait d'une autoroute à deux voies à une autoroute à quatre voies. Donc ça, c'est une autre adaptation. En gros, les personnes qui ont un grand développement de l'endurance, notamment via cette basse intensité, vont avoir une capacité à répondre aux besoins d'oxygène et aux besoins sanguins plus importants. Là où une autre personne peut passer d'une autoroute à deux voies, à trois voies seulement, eux peuvent passer à quatre ou cinq voies si besoin pour laisser passer plus d'oxygène. On peut parler d'adaptation au niveau du transport de cet oxygène, donc au niveau des globules rouges, au niveau de l'hémoglobine que tu as dans le sang. L'hémoglobine, c'est la protéine qui tient l'oxygène, c'est comme le taxi pour transporter ton oxygène. On peut parler d'un développement capillaire de la basse intensité. Qui dit plus de capillaires dit plus de places de parking pour ces taxis lorsqu'ils arrivent aux muscles pour décharger leurs passagers. On parle de plus d'enzymes qui facilitent tous les processus aérobies dans la cellule, dans la fibre musculaire. On parle de plus de mitochondries. On parle de plus de myoglobine aussi qui stocke et transporte l'oxygène à l'intérieur même de la fibre. Donc toutes ces adaptations, autant au niveau central qu'au niveau périphérique, vont avoir un impact considérable. Alors déjà, un, sur ta santé, et deux, sur ta capacité de travail, et ensuite ta capacité d'expression d'intensité. À savoir que lorsque tu fais un effort intense, ce que j'aime bien, c'est utiliser le spectre d'intensité avec comme image les fibres musculaires qu'on va recruter. Hein, on le sait, quand tu fais de la basse intensité, tu recrutes principalement des fibres lentes. Et on peut catégoriser et dire qu'on a trois grandes familles de fibres. Les fibres de type 1, qui sont les fibres lentes. Les fibres de type 2X, qui sont les fibres rapides, à l'autre extrême du spectre, que tu vas recruter quand tu fais un saut très, très intense, ou très explosif, quand tu fais un sprint maximal sur 10 secondes. Et les fibres dites hybrides, qu'on appelle 2A, qui sont rapides, mais qui sont quand même très endurantes. Et en gros, plus ton effort est intense et plus tu vas aller taper dans les fibres rapides, d'abord de A, ensuite de X. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu fais par exemple un effort à VO2 max, tu vas recruter pas mal de fibres rapides, notamment des 2A, et tu vas commencer à taper dans les fibres de X lorsque tu vas sur des efforts courts, genre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes d'efforts très très intenses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré le fait que tes fibres rapides soit vraiment le cœur de la performance sur ce genre d'effort, c'est elles qui sont le moteur. Ce moteur dans les fibres rapides, il est très inefficient. Il y a beaucoup de, je ne parle pas de déchets, mais de produits dérivés métaboliques, des produits qui émanent du métabolisme. On peut parler du lactate, les phosphates inorganiques, les ions d'hydrogène, tous ces trucs qui sont produits par le métabolisme. Et du fait que ces fibres rapides en produisent beaucoup, mais n'ont pas forcément l'infrastructure pour les recycler, eh ben, elles vont passer le témoin à la fibre d'à côté qui, elle, est capable de les recycler. Et ces fibres-là, c'est lentes. Lesquelles
c'est les fibres lentes qui ont ce rôle de recyclage, en fait.
Central de recyclage. Et ça, ça a été démontré. J'ai juste ce schéma en tête où, en gros, tu peux te dire qu'au repos, tes fibres lentes sont nettes productrices de lactate. On sait que le lactate, ce n'est pas la cause de la fatigue. Par contre, on sait que quand il y a beaucoup de lactate dans le sang, il y a beaucoup des autres molécules qui vont être cause de la fatigue. D'accord ?
Et donc, c'est un facteur limitant de performance à haute intensité. C'est cette gestion de ces produits-là.
Exactement. Et donc, si tu augmentes la capacité de tes fibres lentes à pouvoir mieux recycler tout ça, tu augmentes la taille de l'usine de recyclage en fait, de ta ville. Eh ben, lorsque il y a beaucoup de déchets, entre guillemets, lorsqu'il y a beaucoup de produits métaboliques qui sont créés de par la haute intensité, de par le recrutement des fibres rapides, de par la contrainte métabolique très très importante de l'effort, eh ben, ta centrale de recyclage, elle est là pour récupérer, recycler t'aider à durer un peu plus longtemps, t'aider à refaire plus rapidement ce même effort. Et donc, le transfert, il est là, en fait, à mon avis, sur cette basse intensité vis-à-vis des autres entraînements, c'est qu'il te permet d'en faire plus, plus souvent et plus longtemps. Et ça, c'est vraiment le cœur du truc. C'est pas se dire je vais être une machine parce que je fais de la zone 2, mais concrètement, je dirais que si tu fais plus de zone 2, tu pourras t'entraîner plus fort et plus souvent. Et c'est ça qui fera.
Attends.
Au final, que.
Non. À la VO2 Max, tu m'as dit exactement la même chose. Tu m'as dit, la VO2 Max, c'est ce qui va te permettre d'avoir une capacité de travail augmentée. Attends, je comprends plus là.
Bah, ça marche dans les deux sens, en fait.
Ah, ça dépend, c'est ça?
Bah, ça dépend du niveau auquel tu commences. Parce que si tu as une VO2 Max dans les chaussettes, eh ben, l'entraînement à VO2 Max à haute intensité va t'aider à développer cette capacité. Mais à un moment donné, comme on l'a dit, plus ton niveau augmente, plus ton volume horaire augmente, et plus tu ne peux plus juste passer par la case, je me mets en travers pour progresser. Il faut ce socle, il faut cette base. Et on le sait, les fibres lentes ont une capacité d'adaptation bien plus importante que les autres types de fibres. Elles sont bien plus plastiques. Et donc, tu peux littéralement les changer beaucoup plus que les autres. Et c'est ça qui fait qu'avec des heures et des heures de basse intensité, tu peux vraiment atteindre des niveaux de développement qui sont incroyables.
Il nous reste 4 minutes. Sur les mitochondries, ça vient multiplier en fait nos mitochondries, c'est ça?
Ça dépend du type de fibre qu'on recrute. Je m'explique. Il y a un super papier qui est sorti il y a un an ou deux qui s'appelle Need for Speed, et, comme le jeu vidéo, et qui parle du fait que différents types de fibres ont différents types de mitochondries et l'adaptation de ces mitochondries ne se fait pas de la même manière. C'est-à-dire que les fibres lentes, elles ont des mitochondries qui vont vouloir se développer en termes de volume, en termes de densité, en gros la place que les mitochondries vont prendre dans tes cellules. C'est comme ça que ces mitochondries sont faites, et si tu fais de la basse intensité, si tu sollicites tes fibres lentes, c'est ce qui va se passer. Tu vas augmenter en gros le volume de ces mitochondries, on appelle ça la capacité mitochondriale typiquement. Okay, donc c'est comme si ton usine prenait plus de surface. Tu agrandis
ton usine. C'est la mitochondrie en elle-même qui augmente, ou c'est parce qu'il y en a plus? Il y en a plus,
donc faut le voir comme un réseau. Faut pas le voir comme un truc isolé qui flotte, c'est un réseau. C'est faut le voir comme la grille électrique de ta ville, comme le réseau de fibre optique, même si tu veux, de ta ville. Et c'est un réseau qui va se développer en termes de surface. Donc, pense à l'usine, l'analogie de l'usine, ou alors, si tu penses à des petits soldats, on va multiplier le nombre de soldats. Okay, on peut y penser comme ça.
Okay.
Alors que tes fibres rapides, qui ont beaucoup moins de mitochondries à la base, elles fonctionnent un petit peu différemment. Elles compensent leur manque de volume mitochondrial par une fonction mitochondriale accrue. Ça veut dire que par unité de mitochondrie, si on prend un certain volume de mitochondrie, disons qu'on prend un soldat, eh ben, dans les fibres rapides, chaque soldat de mitochondrie peut plus fort, peut utiliser plus d'oxygène par unité de mitochondrie. Et ça, c'est aussi la manière dont ces fibres s'adaptent. C'est-à-dire que quand tu sollicites tes fibres rapides, par exemple avec de la VMA ou même du sprint interval training, des entraînements qui sont absolument dégueulasses, que je ne vous recommande pas si vous avez peur de vous faire du mal à l'entraînement, mais pour les timbrés comme nous, ben, peut-être que vous voudrez essayer. Et si vous ne savez pas comment ça fonctionne, petite parenthèse, 4 fois 30 secondes à bloc sur un vélo idéalement, avec 4 minutes de repos complet. Et quand je dis à bloc, ça veut dire que tu pars en sprint, tu cherches à taper le maximum de watts après 8-10 secondes, et ensuite tu tiens à la mort pendant 30 secondes, quitte à forcément ralentir beaucoup. Vous allez voir l'effet sur les jambes après la troisième et quatrième répétition, ça fait tout bizarre.
On en avait parlé un peu sur l'épisode sur les fractionnés. Regardez, on a fait tout le spectre des fractionnés, vous pouvez en retourner, c'était magnifique.
Et c'est intéressant parce que ce papier, il vient corroborer ce qu'on semblait comprendre depuis un petit moment, où les gens disaient, en gros, si tu fais de la basse intensité, tu développes ta capacité mitochondriale, mais si tu fais de la très haute intensité, tu développes ta fonction mitochondriale. Et en fait, si tu rajoutes dans cette réflexion la case « quelle fibre je recrute et je sollicite durant ces entraînements », bah, ça a tout son sens, parce que quand tu fais de la basse intensité, tu recrutes des fibres lentes qui, elles, développent, quand elles s'adaptent, une plus grande capacité, une plus grande surface, un plus grand volume mitochondrial. Et à contrario, quand tu fais de la très haute intensité, quand tu recrutes des fibres rapides, eh ben, elles vont s'adapter autrement et elles vont augmenter leur fonction mitochondriale, donc combien d'oxygène tu utilises par unité de mitochondrie. Et donc, ça explique ce spectre d'adaptation mitochondriale selon l'intensité, mais surtout selon le type de fibre dans laquelle vit cette mitochondrie.
C'est magnifique, on est juste à temps. J'ai adoré cette mitochondrie VS les fibres lentes et rapides, ça a vraiment beaucoup de sens. Ça a aussi plein de bénéfices, cette zone 2, cette basse intensité au niveau métabolique, tu vois. Il y a aussi la flexibilité de la mitochondrie qui peut utiliser un petit peu plus les lipides par rapport aux glucides. Il y a une meilleure sensibilité à l'insuline. Enfin, il y a plein de bénéfices qu'on va pas aborder ici, mais on a déjà fait pas mal. Pour finir, moi j'ai été piégé à la basse intensité et je suis de retour dans la haute intensité et je me fracasse. Et voilà, je suis très content aussi. Donc voilà, on a vu que on voulait parler de basse intensité, mais en fait on avait trop envie de parler aussi de haute intensité. Donc voilà, et regardez tous les épisodes qu'on a fait avec Sean. Vous avez tout le spectre du cardiovasculaire, la zone 2, la basse intensité, c'est super, ça a vraiment un intérêt. Mais l'intérêt, c'est de comprendre votre entraînement d'endurance, comprendre pourquoi vous le faites. Et puis voilà, prenez du plaisir, c'est le mot de la fin, je pense.
C'est ça, prenez du plaisir, entraînez-vous aujourd'hui et pour toujours. Et voilà, plus d'amour, plus de sourires, plus de petits cœurs, plus de petites étoiles, et la vie sera belle.
Tu travailles ces punchlines à la maison,
Non.
C'est le talent.
Ah, je sais pas, c'est peut-être les milliers de podcasts que j'ai fait.
Non, mais il y a un autre truc, tu vois, la basse intensité, tu sais, j'en ai fait beaucoup. En fait, ça m'a travaillé la force mentale. Tu sais, il y a un truc aussi quand vous êtes à basse intensité, il faut être capable de courir longtemps, un truc modéré. C'est un peu chiant parfois. Désolé pour le mot, mais c'est vrai, parfois c'est un peu monotone. Donc, vous entraînez aussi votre mental. Et quand vous revenez sur la haute intensité, que vous pensez à rien, juste à vous envoyer, c'est beau, quoi.
C'est le vrai plaisir de la vie.
Bon, parfait. On s'arrête là. On pourrait continuer, on le sait. Hein.
On pourrait, mais il faut que j'aille chercher ma femme. Si je la laisse en plan, elle va pas être contente.
D'abord la femme et puis après 1000%. Voilà.
C'est ça.
Bon, allez. Merci Sean. On s'est régalé. Mettez les 5 étoiles et puis à très vite.
À très vite pour un épisode hors série.
Ciao, ciao.